Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. Nous sommes donc à la mi-janvier, en voulez-vous de l'optimisme? On est dans 5 jours, on va être à 2 mois du printemps. Non, mais c'est ça pareil, hein, le 20 mars qui avance à grands pas. En première heure d'émission, je voulais aborder avec vous toute la question de la grande campagne de vaccination. Mais là, il y a une nouvelle de dernière heure, justement, à cet effet qui vient de sortir. La compagnie Pfizer, qui fabrique donc ce vaccin dont on reçoit les doses, vient d'annoncer qu'il y aura des délais dans la livraison de ces vaccins contre la COVID au Canada, aussi ailleurs dans le monde, donc c'est pas que chez nous. La pharmaceutique dit qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des retards à cause d'un réaménagement de ses installations européennes. Ça, c'est la version officielle. On a bien sûr contacté la compagnie Pfizer il y a quelques minutes au moment où on a reçu cette alerte d'info. On va vous tenir au courant si on arrive à leur parler. Toujours est-il que ça vient sans doute pas faire l'affaire du gouvernement du Québec. À la lumière de cette conférence de presse d'hier après-midi où on a entendu Christian Dubé, le ministre de la Santé, et le docteur Richard Massé nous dire à quel point l'heure était tellement grave qu'il fallait qu'on organise nos flûtes un peu différemment. Alors, ce qui a été décidé hier, vous l'avez sans doute vu, c'est que finalement, on allait tenter de donner une première dose à plus de gens et qu'on allait étendre le délai entre la première et la deuxième dose. En d'autres mots, ça veut dire qu'on veut vacciner le plus grand nombre de gens possible. Si vous voulez bien, on va entendre le docteur Richard Massé là-dessus, extrait de ce point de presse d'hier après-midi.
Ça nous, d'abord, c'est court comme intervalle, et puis ça nous permet de rejoindre des clientèles qui sont vraiment importantes. On a parlé des RPA qui vont commencer tantôt, mais on a mentionné aussi les personnes de 80 ans et plus, 70 ans et plus, et ça, ça va nous permettre de rejoindre ces gens-là. Et il y a un impact maximal chez ces gens-là qu'on va pouvoir rejoindre plus précocement. Dès qu'on va être capable, on va raccourcir l'intervalle.
Voilà. Et évidemment, ça, c'est une décision du Québec. Ottawa ne s'est pas prononcé là-dessus autrement que pour dire que c'est le choix des provinces d'organiser ça comme elles veulent. On se souvient qu'il y a quelques semaines, la compagnie Pfizer disait pour avoir des doses, faut pas commencer à jouer dans notre protocole. Pour nous, comme fabricants de vaccins, comme pharmaceutiques, Pfizer disait, c'est important d'avoir ces deux doses-là. Le délai, c'est 42 jours entre la première et la deuxième dose, même qu'au début, on disait que ça pouvait se donner même à 21 jours. Mais là, on l'étend à 90 jours pour la deuxième dose. Est-ce qu'il sera aussi valide, valable, efficace, ce vaccin-là? Avec un délai donc qui est plus que doublé. C'est sûr qu'il y a une légitimité, puis on comprend qu'on veuille vacciner le plus grand nombre de gens possible. On va en discuter tout de suite, et si vous avez des questions pour notre spécialiste, ne vous gênez pas là, pour des questions, bien sûr, pour clarifier notre compréhension à tous de ce dossier-là. Il est virologue, il est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Benoît Barbeau, bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal.
Bon, alors là, le débat est lancé. On n'est pas les seuls, de toute façon, à décider là, sur la deuxième dose d'étendre le délai. Comment vous voyez ça, vous, M. Barbeau? Est-ce que c'est un pari qui s'explique bien ou c'est un pari que vous considérez plus ou moins risqué?
Bien, il y a toujours un risque, évidemment, lorsque vous commencez à changer, comme la compagnie Pfizer l'a mentionné, ils doivent se défendre aussi, de changer le protocole qui a démontré justement l'effet bénéfique du vaccin. Alors, il est certain que l'entreprise Pfizer et Moderna également, eux ont utilisé un protocole très précis qui était basé sur leur première phase d'études de phase clinique. Et puis, avec ce protocole-là, donc ils ont démontré que quelqu'un qui était infecté par le virus de la COVID-19 et qui développait des symptômes de la COVID-19 était plus de 90% moins susceptible une fois que le vaccin est administré à développer, à tout simplement démontrer ces symptômes-là ou d'être infecté. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ne sont pas permis justement de tester différents protocoles. Mmh. On se rappelle quand même qu'on avait une course contre la montre. On devait arriver rapidement avec des résultats probants. On parle de plusieurs dizaines de milliers de participants, des coûts. Et c'est pour cette raison-là qu'eux sont arrivés avec un protocole bien précis. Et le protocole démontre en effet que vous avez une très bonne protection. Maintenant, la question de...
Après 21 jours, là, M. Barbeau.
Oui, après 21 jours, oui, exactement.
On parlait d'une efficacité de 95%. Là, oui, après, on s'est dit... la recommandation fédérale, c'est de ne pas dépasser 42 jours. C'est donc le double du délai. Puis là, au Québec, mais à d'autres endroits aussi dans le monde, il n'y a pas que nous ici, mais ça commence.
Oui. Ouais. On parle de 12 semaines, là. Oui,
ouais, là, c'est 90 jours. Oui. Est-ce qu'on, là, la compagnie Pfizer ne va pas garantir, pourra plus garantir quoi que ce soit, là?
Ben exactement. Donc, la compagnie Pfizer, elle, comme je dis, regarde son protocole et leur demande aux gens d'utiliser le protocole tel qu'il est. C'est là qu'il y a le meilleur rendement. Maintenant, lorsque vous commencez à étirer la distance, le nombre de jours entre la première et la deuxième dose, c'est là qu'en effet, qu'il y a des bonnes chances que votre efficacité va diminuer. À quel niveau? Eh bien, Pfizer ne peut absolument pas le déterminer. Ils n'ont pas les données cliniques pour le faire. Mais ils savent très bien que là, on commence à jouer justement dans une zone grise, et puis que votre efficacité va possiblement et même probablement plus que vous éloignez de la première dose diminuer.
Mais moi, si je suis Pfizer ce matin, là, je regarde ce qui se passe, puis je dis, voyons, qu'est-ce qui commence à jouer dans nos protocoles? N'a-t-on pas été assez clair? C'est 21 jours si on veut une efficacité de 95%. Est-ce que je pourrais être tentée d'envoyer une nouvelle à l'effet qu'on va avoir de la misère à livrer des doses de vaccins? Je trouve ça quand même... particulier là, qu'on vienne d'apprendre au moment où on s'organise dans les pays, incluant au Québec, où on dit, ben là, finalement, là, on va vacciner le plus grand nombre possible de gens, on va aller donner les premières doses, puis on verra ensuite pour la deuxième dose. Là, Pfizer dit, ah, excusez-nous, c'est fort possible qu'on ait des problèmes à vous livrer.
Ben, c'est probablement pour ça qu'ils l'ont fait également.
Vous pensez que c'est ça?
Ben, écoutez, je sais pas, je suis vraiment pas dans la tête des directeurs ou des chefs d'entreprise
On pourrait penser qu'il y a un lien, en tout cas.
Oui, exactement, tout à fait. Je crois quand même qu'ils veulent lancer un message, leur dire attention. Vous, en effet, vous considérez qu'on devrait, que vous pouvez tirer justement le délai entre la première et la deuxième dose. Mais nous, de notre côté, on doit vous avertir qu'il pourrait avoir des problèmes d'approvisionnement. Et ça, quand même, ça semble être surprenant d'apprendre ça de Pfizer, mais on avait déjà eu des échos à cet effet. Parce que, tout simplement, il faut comprendre que c'est une technologie qui est nouvelle. Donc, c'est pas une technologie qui date de plusieurs décennies. On a quand même une nouvelle technologie qui est basée vraiment sur des protocoles où qu'on fait une confection de vaccins, mais dans un tube, en fait. Là, on a besoin de certains composés, certains réactifs, et puis ça, ce qu'on appelle le consommable, peut aussi se retrouver à avoir des problèmes de pénurie. Alors, la compagnie, c'est sûr que eux, lorsqu'ils produisent un nombre impressionnant d'eau, sont dépendants de ce qu'on appelle des consommables. Et puis, c'est peut-être aussi à ce niveau-là qu'on peut avoir problème. Alors, Pfizer et Moderna également doivent absolument envoyer un message clair et net, surtout par rapport au discours actuel où que les différents pays considèrent justement la possibilité d'étendre, d'étaler leurs doses puis de les séparer. Ils doivent envoyer un message pour dire on a quand même des infrastructures qui nous permettent de produire massivement des doses, mais on a en ce moment une situation ou des situations qui pourraient ralentir notre production. Et ça, en effet, ça va faire en sorte que les compagnies devront aussi se positionner. Maintenant, au Québec, tout comme ailleurs, justement, la question se pose, comme vous avez mentionné en entrée de jeu, si en effet, à quel point on devrait distancer ces doses. Mm-hmm. Alors, il y a quand même un fondement derrière le fait qu'on devrait maximiser les premières doses. La question demeure toujours, qu'est-ce qui arrive au moment où on distance la deuxième dose et qu'on justement que ce délai-là est de plus en plus augmenté. Mais il y a des études qui suggèrent que surtout dans une condition à la condition actuelle où qu'on a on n'est pas vraiment en condition un surplus de doses, il y a quand même un avantage à maximiser les premières doses. Et là, il y a des modèles qui démontrent qu'en effet, si vous poussez beaucoup plus une stratégie dans laquelle vous visez d'administrer une première dose, vous allez avoir un effet beaucoup plus bénéfique que si vous entreposez vos deuxièmes doses et que vous les gardez pour justement les personnes qui ont reçu la première dose.
Alors, il y a quand même... Attendez, vous dites, Benoît Barbeau, qu'il y a des études là, qui démontrent ça, qu'on a avantage donc à étendre au plus grand nombre.
faut faire attention, c'est théorique, donc c'est des modèles mathématiques, on a fait des modélisations et il semblerait qu'en effet, on peut avoir un effet plus bénéfique de maximiser les premières doses. Il faut quand même ne pas oublier que les premières doses ne nous donne une certaine protection. On parle de 54, même plus un pourcentage plus élevé. Alors, si vous augmentez le nombre de personnes qui reçoivent la première dose, bien, à ce moment-là, le pourcentage de votre population qui va recevoir cette première dose-là, qui va avoir cette protection qui... le problème, c'est qu'on ne connaît pas la durée, tout comme on ne connaît pas la durée aussi lorsqu'on reçoit deux doses. Mais n'empêche que ça pourrait en effet vous amener à une protection qui, au niveau la population serait plus bénéfique que si vous entreposiez ces deuxièmes doses-là et vous attendiez justement le délai de 3 semaines ou de plusieurs semaines maintenant, comme on entend parler, pour les administrer.
Ou même personnes qui ont eu la première. Exactement. En fait, c'est qu'on vaccine plus large. Là. Le spectre de vaccination, exactement, on touche plus de gens avec une première dose d'un vaccin qui, toutefois, pourrait être moins efficace.
C'est-à-dire que oui, en effet. Donc, on aurait possiblement moins d'efficacité, mais sauf que votre campagne vaccinale toucherait plus de personnes. Et à ce moment-là, vous pourriez peut-être avoir un effet aussi plus bénéfique que si vous étiez plus lent à administrer les deux fameuses doses à un nombre plus limité de personnes. Alors, c'est dépendamment de ce que vous visez. Donc, si vous visez de maximiser une certaine protection d'au moins 54% avec une durée qui pourrait varier, je dois l'admettre, une durée de la protection, devrais-je dire, là, à ce moment-là, vous allez en effet pouvoir couvrir plus large, mais autrement, si vous voulez maximiser selon le protocole, il faut rappeler quand même que le protocole de Pfizer n'était pas un protocole qui est sorti en phase clinique 3 comme étant le meilleur. C'est le seul qu'ils ont testé. Donc, ils ne peuvent pas se positionner pour dire, ben en phase clinique 3, on a testé 3-4 différents protocoles. Non, il y en a testé un seul. Et puis, c'est les résultats qu'ils ont obtenus qui ont démontré justement des résultats extraordinaires.
Ouais. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Ah, là, on vient de m'apporter, vous me permettrez, Benoît Barbeau, vous êtes virologue, je le rappelle. Et là, tout à l'heure, je disais à nos auditeurs qu'on essaie de joindre les responsables, les porte-parole de la compagnie Pfizer au Québec. Et on ne peut que leur envoyer une demande écrite. On vient d'avoir la réponse à l'instant. Normand, mon recherchiste vient de me l'apporter. Alors, on va la lire ensemble, puis je la lis pour la première fois en même temps. On nous répond. Voici notre énoncé à propos donc de la nouvelle de ce matin. Je rappelle à ceux qui l'ont manqué que Pfizer vient de nous annoncer, là, il y a à peu près 15 minutes, qu'ils devaient temporairement réduire leur livraison de vaccins contre la COVID-19. C'est la ministre fédérale de l'approvisionnement, Anita Anand, qui a expliqué ça. Et donc, voici ce qu'ils expliquent. Pfizer, je cite la lettre, « Pfizer travaille avec acharnement pour fournir plus de doses que prévu cette année, avec un nouvel objectif de 2 000 doses en 2021. Pour ce faire, Pfizer augmente ses opérations de fabrication afin d'accroître la disponibilité et la production des doses. » Jusqu'à maintenant, ça ne nous dit rien. Deuxième paragraphe. « Dans le cadre des améliorations normales de la productivité visant à augmenter la capacité, nous devons apporter des modifications au processus et à l'installation. Bien que cela ait un impact temporaire sur les livraisons de fin janvier et de février, ça permettra d'augmenter considérablement les doses disponibles pour les patients à la fin de février et en mars. Par conséquent, il pourrait y avoir des fluctuations, dit Pfizer, des fluctuations dans les commandes et les calendriers d'expédition à notre installation de PERS dans l'avenir immédiat afin de permettre rapidement l'augmentation des volumes de production. » Bon, merci beaucoup. Et c'est signé par la directrice affaires de l'entreprise de Pfizer Canada. Qu'est-ce que vous comprenez de ça, M. Barbeau? Font de la place dans l'entrepôt pour installer des nouvelles machines,
Écoutez, je crois qu'en effet, ils sont dans une situation où ils doivent rapidement se repositionner. Ils savaient déjà qu'en tout cas, il y avait beaucoup de pays qui allait porter des commandes, justement, qui allait demander à obtenir ces vaccins-là à grand nombre. C'est sûr qu'eux-mêmes ont commencé, avant même d'avoir les résultats de phase clinique 3, pour augmenter justement la production de leur dose. Ça demeurait quand même un risque. Donc, eux ne connaissaient pas les résultats de la phase clinique 3, et puis c'est ceux qui sont déterminants à savoir si le vaccin est bon ou non. Maintenant, là, comme je vous ai mentionné, ils sont dans la situation qu'ils doivent générer une quantité de doses. Et puis, ils doivent se protéger.
Non, mais c'est un beau problème pour une compagnie privée quand même. Hein?
Tout à fait.
Parce qu'on se rappelle que tout ça, on est quand même un peu... je suis sûr qu'ils sont fins, les gens de Pfizer, là, mais...
Ouais.
on est obligé d'essayer de les avoir dans notre poche et de notre bord en ce moment-là. Alors, c'est sûr que là, au moment où tout le monde s'arrache les doses d'un vaccin qui est fabriqué par une compagnie ou deux, là, parce qu'on peut mettre Moderna là-dedans, mais pour l'instant, au Québec, nous, c'est du Pfizer qu'on reçoit, hein, c'est bien ça?
Donc, et Moderna aussi, éventuellement.
Éventuellement, mais pour l'instant, est-ce qu'on en a du Moderna?
Je pense
qu'on n'en a pas encore vraiment, mais ça devrait pas tarder.
Oui,
on va en parler après la pause. Mais bref, on a intérêt à les mettre de notre bord. Si on commence à jouer dans les protocoles, ça pourrait les froisser. Ils pourraient décider de choisir de donner des doses à ceux qui respectent à la lettre leur protocole. Ça pourrait être aussi une décision d'entreprise.
Écoutez, je crois qu'il y a quand même des contrats qui ont été signés. L'entreprise ne pourrait pas commencer à jouer trop avec la façon qu'ils vont distribuer leur vaccin. Je crois qu'aussi, ils sont conscients du problème actuel. Eux-mêmes, justement, sont capables de fournir une certaine dose, justement, à travers la planète. Puis, ils peuvent avoir des problèmes, et comme ils mentionnent, entre guillemets, des fluctuations au niveau de leur production. Alors, ils sont, je crois, conscients que les pays doivent aussi prendre acquis justement de cette fluctuation et aussi de trouver des stratégies pour s'assurer d'arriver justement avec une campagne vaccinale qui est efficace. Comme je l'ai mentionné, ce que Québec avance quand même a une certaine valeur, un fondement, mais n'empêche qu'il demeure pas néanmoins qu'il y a un flou, une zone grise à savoir à quel point justement on aura une moins grande efficacité.
Voilà.
C'est à ce niveau-là que ces deux stratégies-là ont des variations, puis on ne sait pas, en fait, je pourrais même vous dire que je ne sais pas quelle stratégie est la meilleure, parce que notre but, c'est de contrôler le plus rapidement possible la propagation du virus, s'assurer que le virus va être contrôlé puis qu'on va être capable en 2021 de revenir justement à des conditions plus normales.
Voilà.
Mais si vous minimisez le nombre de personnes qui vont recevoir ou que le rythme de vaccination est moindre parce que vous favorisez ces deux doses-là, eh bien, vous pourriez avoir la même situation qui soit aussi ou plus complexe que si plutôt vous poussez plus une stratégie dans laquelle vous administrez la première dose vaccinale à un plus grand nombre de personnes.
On va s'arrêter ici, M. Barbeau. C'est fort intéressant tout ce que vous nous dites. Vous restez avec nous, bien sûr. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous en pose une question parce que déjà qu'il y avait une espèce de petite crise de confiance par rapport à ce vaccin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, quand on a posé la question aux Québécois puis aux Canadiens, il y en avait quand même plus du tiers qui disaient qu'ils n'avaient pas l'intention du tout de se faire vacciner dans les 6 à 12 mois. Donc, il y avait une certaine réticence avouée, affichée. Il semble que, d'ailleurs, il y a même des travailleurs de la santé en ce moment qui disent, écoutez, c'est pas que je suis contre, mais je vais attendre. Est-ce que le fait là, qu'on commence à jouer dans les protocoles, ça va vous donner envie d'aller vous faire vacciner ou ça vous encourage encore plus à dire, je vais attendre, là, parce que là, si on commence à baisser peut-être le taux de résultats ou d'efficacité de ce vaccin, je suis pas sûr de mon affaire. Je voudrais vous entendre là-dessus. 514-790-9850. De l'extérieur, partout au Québec, vous me joignez en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite. On est bien sûr en compagnie du virologue Benoît Barbeau. Il est professeur au département de sciences biologiques de l'ICAM. On discute du vaccin Pfizer, du vaccin Moderna aussi. Puis j'ai la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure, à savoir, on nous avait dit le fin décembre qu'on recevrait bien sûr des doses au Québec. On parlait de 32 500 doses de Moderna aussi. Puis, M. Barbeau, je le confirme, il y a même des gens qui me disent qu'ils ont reçu, eux, le vaccin Moderna. Donc, ça a été enclenché. Donc, il y en a même qui pourraient être tentés de dire, bien, puisqu'on a du Pfizer, on a du Moderna, est-ce qu'on pourrait mélanger les vaccins? Tant qu'à jouer dans les affaires des laboratoires, est-ce qu'on pourrait être tenté de faire ça? Pas sûr que ça soit une bonne idée, par exemple, mais...
Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas une bonne idée.
Ouais, c'est ça.
Encore là, on n'arrête pas de parler justement que la Pfizer est très stricte dans l'utilisation de leur protocole et on demande justement de suivre leur protocole à la lettre pour aller chercher une valeur optimale. Si vous commencez à mélanger deux différentes formulations vaccinales, les composés, tous les éléments qui constituent votre vaccin vont être différents et il n'y a aucune garantie que là, vous n'allez peut-être pas avoir d'autres effets secondaires qui vont apparaître. Ils ne seront pas nécessairement majeurs ni plus nombreux, mais c'est certain que d'une part, vous allez avoir l'aspect sécurité qui devra être regardé et reconsidéré, mais aussi l'efficacité. Et on sait de toute façon que même si la technologie de ces deux vaccin est la même, donc basée sur ce qu'on appelle l'ARN, leur constitution, la façon que l'ARN, qui est la molécule qui est importante dans la formulation, est protégée, eh bien, cette approche-là est différente parce que vous avez justement des températures d'entreposage qui sont différentes. Alors,
oui,
déjà,
ça,
là, on voit qu'on a des différences. Et puis, comme je vous dis, lorsque vous commencez à jouer en y allant avec un vaccin et justement en injectant une deuxième dose d'un autre vaccin, vous êtes aucunement garanti de l'efficacité et surtout de la sécurité de ces vaccins. Alors, ça serait vraiment à éviter à tout prix.
Ouais,
je
tout
suis
fait.
Certain que le gouvernement va proscrire une telle approche.
Mm-hmm. D'ailleurs, le Moderna semble être celui qu'on déploie dans les régions plus éloignées, justement parce que avec les temps de transport, là, comme celui-là, celui de Moderna, n'est pas obligé d'être maintenu à des températures aussi basses que celui de la compagnie Pfizer by BioNTech, on l'envoie là aussi plus loin, justement. On pense, entre autres, dans le nord du Québec, dans le nord du Canada. Les communautés autochtones, par exemple, sont aussi celles qui reçoivent ce vaccin-là. Il y a déjà des gens, en tout cas, qui me disent qu'ils l'ont reçu. On a Claude qui nous appelle. Bonjour, Claude.
Bonjour.
Quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport au vaccin?
Ben moi, c'est un dossier que j'ai étudié beaucoup. J'ai constaté, en lisant le document d'approbation de Santé Canada du vaccin Pfizer, qu'à la page 23, ils disent qu'il y a trois choses qu'ils n'ont pas testées. Les impacts sur le cancer, mm-hmm. sur notre fertilité et sur les modifications génétiques, alors qu'on parle ici d'un traitement génique beaucoup plus qu'un vaccin. Moi, ça m'inquiète totalement. Et j'irais jusqu'à dire que si ça devient obligatoire, je change de pays. N'importe quel pays où il n'y a pas de vaccin.
Mmh. Ben, je pense pas qu'on soit du tout dans... C'est pas dans les plans là, de le rendre obligatoire du tout, n'est-ce pas, M. Barbeau? Là?
Oui, non, en effet. Je veux dire, je crois que, comme tout vaccin, on n'oblige aucunement, le gouvernement n'obligera aucunement ses citoyens de prendre le vaccin. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a évidemment, la compagnie Pfizer est limitée dans les tests qu'ils peuvent faire, et puis vous parliez de cancer, vous parliez de fertilité. Je crois qu'ils ont beaucoup ciblé les impacts du vaccin, évidemment, sur la COVID-19, mais également sur les effets secondaires. Ce qu'il faut comprendre, il faut absolument insister sur le fait que l'aspect modification génétique est très peu probable d'être un élément qui pourrait faire en sorte que le vaccin aurait des effets secondaires. Parce que ce qu'on injecte, en effet, c'est un matériel génétique, oui, mais c'est de l'ARN. Nous, on est fait d'ADN. Ça, c'est notre matériel génétique. Alors, mais lorsque vous injectez de l'ARN, cet ARN-là, c'est comme, dans le fond, un genre d'intermédiaire entre votre ADN et les protéines qui sont produites à partir de vos gènes qui vous permettent de fonctionner. Le vaccin qui est basé sur l'ARN, en fait, injecte uniquement l'ARN et non pas l'ADN, le gène qui vous permettrait de produire la protéine spike, qui est en fait la cible même du vaccin. Et le fait qu'on injecte l'ARN fait en sorte que cet ARN-là, une fois qu'il s'est accaparé par les cellules, va rapidement permettre la production de la protéine, mais plutôt que rester dans vos cellules et même éventuellement pourrait devenir une partie constituante de votre matériel génétique, va tout simplement se dégrader. Alors, la molécule en tant que telle, l'ARN, elle est très, très instable et a très peu de probabilité de se retrouver dans notre bagage génétique parce que tout simplement, il y a comme une dégradation, une instabilité qui est vraiment intrinsèque à cette molécule-là. Alors, donc ça, vous pouvez être assez confiant que les probabilités mm-hmm. qu'un tel impact au niveau de notre matériel génétique sera très faible.
OK. Et vous, Benoît Barbeau, comme virologue, vous avez des réticences à vous faire vacciner ou au contraire, vous auriez hâte?
Ben moi, je crois, écoutez, j'ai aucun problème et en effet, lorsque le temps sera venu, oui, je vais y aller me faire vacciner parce qu'en effet, en ce moment, devant la pandémie actuelle, je veux dire, on a un impact majeur au niveau de la santé, à plusieurs niveaux, au niveau de notre société, mais les vaccins qui ont été distribués, qui ont été présentés, ont été quand même testés, vérifiés pour leur sécurité à travers les différentes phases cliniques. Et après coup, on a vu justement tous les organismes qui approuvent, qui homologuent ces vaccins-là, qui ont fait l'analyse des résultats, qui ont déterminé en effet qu'ils étaient sécuritaires. J'ai aucune réticence face au vaccin. Et je connais aussi justement les propriétés. Comme je vous dis, en plus, le fait que c'est un vaccin à base d'ARN, contrairement à d'autres formulations vaccinales, pour moi, ça fait en sorte que je considère qu'il est même plus sécuritaire que des approches qui pourraient être plus traditionnelles.
Ah, c'est intéressant. On va poser la question aussi à nos auditeurs tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. On parle de cette campagne de vaccination. Vous avez entendu hier Québec nous expliquer là, qu'ils allaient étendre le délai entre la première dose du vaccin, que ce soit celui de Pfizer ou celui de Moderna, et la deuxième dose, en particulier celui de Pfizer, là, qui est celui qui est probablement le plus administré pour le moment. On parlait au début d'une efficacité à 95% selon la compagnie, à partir du moment où on donnait une deuxième dose au 21e jour. Là, le fédéral dit OK pour l'étendre à 42, mais à passer ce 42e jour-là, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va avoir comme effet en termes d'efficacité. Le Québec, la province de Québec et d'autres provinces pourraient décider la même chose aussi, parce que le fédéral a dit c'est vraiment, on ne va pas dire aux provinces comment gérer leur campagne de vaccination. Ils ont le droit de décider de l'étendre au-delà du 42 jours. Puis vous avez vu, au Royaume-Uni aussi, on décide de faire la même chose. Il y a de plus en plus de pays qui disent, mais écoutez, là, c'est le pari qu'on prend. C'est de finalement vacciner le plus grand nombre avec une première dose, qui serait peut-être moins efficace que 95%. On ne le sait pas trop. En ce moment, je suis sûre qu'ils sont en train de l'évaluer dans les laboratoires de ces entreprises-là. Puis probablement aussi que les autres pays le font. Les pays aussi font des études, comme nous le disait notre invité Benoît Barbeau. Donc, on essaie d'évaluer l'efficacité d'un vaccin qui serait peut-être donné plus tard en deuxième dose pour pouvoir donner une première dose à plus de gens. Il y a quelque chose qui se tient là-dedans. C'est un pari. Faut le prendre. C'est ce qu'a décidé de faire Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jannick est avec nous. C'est une dame de 84 ans qui vit chez elle, en appartement. Vous êtes seule, Jannick? Bonjour.
Je suis seule et heureuse.
Bon, ben tant mieux. Puis en forme?
En forme, beaucoup
bon.
En forme.
Quand vous entendiez tout ça ce matin, que vous
oui,
pensez quoi de ça?
Je vais vous dire une chose. Mm-hmm. Je ne le prends pas, le vaccin. J'aime mieux mourir du cancer. J'ai aucun symptôme, là. Parce que je trouve que c'est hypothétique. C'est sorti trop vite. Pour commencer, c'est 3 semaines après le vaccin. Là, on est rendu à 42. C'est tout réfrigéré. Non, j'ai pas confiance.
Vous n'avez pas confiance?
J'ai pas confiance, mais pas du tout. Puis j'ai un gendre qui est chimiste. Il me trouve pas drôle, là.
Est-ce que vous faites attention à pas sortir?
Beaucoup.
Parce que vous savez que vous êtes quand même dans les... Vous êtes dans les gens, les patients... les clientèles dont on dit qu'elles sont les plus vulnérables, les gens d'un certain âge.
Vous avez raison, mais j'ai pas peur parce que je fais attention.
Mm-hmm.
Alors, en faisant attention, je me protège quand même. Mais je vous le dis, ma foi n'est pas là.
Votre foi est où?
D'ailleurs. C'est pas dans l'injection.
OK.
Pas dans les vaccins. Vaccins.
Est-ce qu'elle est dans le bon Dieu, votre foi? C'est là où elle est? Vous dites, vous priez pour ne pas le pogner?
Dans ce coin-là.
Ouais.
Je me dis si je dois mourir à 84, 85, 86. Ben...
Ça sera ça, c'est ça que vous dites?
Ça sera ça, je le prends comme ça.
Ouais.
C'est ma façon de penser. Mmh. Je ne dis pas qu'elle est la meilleure, mais pour le moment, moi, je ne vais pas, c'est sûr.
Ouais. Mais vous êtes conscient, Jannick, puis je veux dire, le choix revient, c'est un choix individuel aussi, on pourra en discuter longtemps, mais c'est sûr qu'après, il y a le coût de cette décision-là. Il y a bien des médecins, puis on va parler au docteur Amir Kadir tout de suite à l'instant, il y a bien des médecins qui pourraient vous dire... cette décision que vous prenez, ça peut vouloir dire aller engorger les soins intensifs pendant 14 jours, puis coûter la vie à d'autres personnes qui, elles, n'auront pas fait ce choix-là.
En tout cas, ça, c'est un choix que je fais. Je ne peux pas dire que c'est le meilleur, je ne peux pas dire que c'est le moins bon non plus.
Ouais.
Mais en tout cas, quand le médecin dit « moi, je ne vais pas tout de suite, je vais voir avant de voir les injections ».
D'accord. Mais écoutez, on va essayer de le faire. Merci beaucoup de votre appel, Jannick. Merci beaucoup. Docteur Amir Kadir est avec moi. Il est infectiologue. Il est spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Pierre-Legardeur. Bonjour, docteur Kadir.
Bonjour, Isabelle. Bonne année.
Bonne année à vous. Exact. Jannick, 84 ans, est bien, est heureuse, mais elle ne fait pas confiance au vaccin.
Isabelle, j'aurais tendance à ne pas blâmer les gens.
Et je la blâme pas, là. Je la blâme pas,
là.
Je comprends,
mais je veux dire, pour moi, je crois que il y a quelque chose de sain dans le fait que les gens puissent questionner, former des doutes, mm-hmm. des questionnements et avoir des réticences. Il faut le travailler, s'expliquer davantage parce que ce que je voudrais dire à Jannick, mm-hmm. La sympathique dame qui vous a parlé, c'est que la science, les observations scientifiques sont en constante évolution. C'est sûr que il n'y a jamais de certitude en science. On travaille souvent avec beaucoup d'incertitudes lorsque, surtout, on a affaire à l'exigence de devoir agir rapidement parce qu'il y a une crise. Puis je pense que personne ne peut nier qu'il y a une crise. On a un problème. Fait qu'on doit prendre des décisions comme celles que les gouvernements commencent à prendre. Est-ce qu'on donne une dose? Est-ce qu'on donne deux doses? Il n'y a pas de certitude là-dedans. On a juste la donnée suivante qui nous dit une première dose semble chez les 20 000 personnes chez qui ça a été testé, parce qu'il y avait deux bras dans l'étude Pfizer, ben la première dose, ça confère à peu près une protection de 60 %. Donc, on table sur cet aspect-là. Maintenant, si les gens ont d'autres interrogations, il faut, c'est-à-dire c'est la responsabilité collective qu'on a tous à mieux répondre à leurs interrogations, à mettre davantage d'informations à leur disposition sur les dangers, sur les risques, sur les conséquences de telle ou telle décision collectivement puis individuellement, puis en espérant que l'ensemble de tous ces efforts fasse que suffisamment de monde soit convaincu pour qu'on soit protégé. Donc, autrement dit, j'aimerais qu'on se dise que collectivement, on a plus à faire et mieux à faire que de reprocher individuellement aux gens, et toi, pourquoi tu prends cette décision-là? Mm-hmm. Ta décision est bête, mm-hmm. et méchante ou enfin irresponsable.
Non, c'est sûr. Puis je le rappelle, hein, moi j'étais à l'écoute de ce que Jannick nous disait. On essaye de voir qu'est-ce que les gens pensent. On prend le pouls tous les matins. Les réseaux,
j'en parle parce que sur la page Facebook où j'ai signalé le fait que j'ai été vacciné, je vois beaucoup d'échanges, puis parfois les gens s'interpellent puis s'accusent mutuellement de toutes sortes de torts. Je pense que ça ne nous avance pas. On doit plutôt se rappeler qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Exact. Puis c'est sûr qu'étant donné toutes les incertitudes qui entourent des décisions qu'on prend dans l'urgence, c'est normal qu'il y a des gens qui soient réticents et qui ne soient pas tout à fait convaincus. Fait qu'on
où je comprends moins, moi, savez-vous quoi, Dr. Camille? Pardon. J'ai moins de difficultés à comprendre Jannick, 84 ans, qui dit « Moi, je suis bien heureux, je suis chez nous, je suis toute seule, je fais attention, je ne sors pas. » Elle n'est pas en CHSLD, elle n'a pas de maladie chronique, en tout cas, elle ne nous l'a pas dit. Si elle en a une, puis elle nous a dit qu'elle était en pleine santé, puis qu'elle, elle ne sent pas le besoin de se faire vacciner malgré son âge. L'âge étant ici un des facteurs qui pourrait dire qu'il faudrait qu'elle se fasse vacciner. Mais tout autre facteur ne semblait pas être un problème. C'est différent avec quelqu'un qui est en CHSLD, où il y a des entrées, des sorties de toutes sortes de gens qui font attention, d'autres qui font moins attention. Et j'allais vous dire, je la comprends plus, elle, que des travailleurs de la santé. Puis je lis, là, puis vous parlez de réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui s'affichent, qui disent « Moi, je travaille dans tel hôpital, je travaille dans tel CHSLD, je fais des gens qui donnent des soins de santé et qui refusent de se faire vacciner. » Celle-là, je la comprends moins.
C'est sûr. Mais regardez, Isabelle. Tout au cours de la pandémie, ces gens-là, sur le terrain, ont quand même vécu des situations un peu aberrantes dans lesquelles on leur refusait du matériel de protection individuel. Je parle des masques. Hein. Uh-huh. Aujourd'hui encore, on leur interdit et on leur prive de leur jugement à savoir dans quelles circonstances elles et ils sont plus exposés et donc, par exemple, pouvoir elles-mêmes décider avec leur équipe, pas individuellement, mais avec leur équipe localement, dans telles circonstances, il faut qu'on porte le N95. Ensuite, ils ont vu une attitude parfois, disons, désinvolte du gouvernement, qui, devant certaines incertitudes, en attendant d'avoir la confirmation totale que c'est absolument utile, nous dit qu'il ne faut pas utiliser le masque, il ne faut pas utiliser l'hydroxychloroquine, il ne faut pas ventiler dans les écoles ou utiliser les purificateurs parce qu'on n'est pas certain à 100% que ce soit efficace. Puis là, le gouvernement arrive en totale, je dirais, incohérence avec cette approche-là, dire « Ah, on n'est pas certain » de la portée de la protection juste d'une dose, mais étant donné les circonstances, on va quand même faire ceci que cela. C'est sûr que ces incohérences qui sont perçues par les gens emmènent des interrogations supplémentaires. Et donc, ce que je voudrais rappeler, donc, même là, dans le fond, il y a le reflet qu'on est dans une crise, puis des décisions qui se prennent qui ne sont pas toujours aussi claire, aussi cohérente qu'on le souhaiterait et qui entraîne son lot de gens qui, à un moment donné, décrochent de gens qui, à un moment donné, perdent confiance, des gens qui, à un moment donné, se disent, ah ben là, les scientifiques, le gouvernement n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils font, fait que bon, je vais y aller de mon propre jugement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on redouble la... Je dis pas que j'ai la solution. Je ne crois pas qu'aucun d'entre nous, celui qui vous parle en premier, on a une réponse et une solution facile à tout ça. Mais ça ne nous sert pas, je le répète, à blâmer individuellement les gens, mm-hmm. à être dans la culpabilisation. On doit plutôt mobiliser l'intelligence et la volonté des gens de dire, écoutez, on a entendu vos questionnements, mais voici ce qu'on vous propose collectivement de faire. Puis surtout, que le gouvernement prenne mieux ses responsabilités à tous les échelons. Mm. Parce que sur certains égards, ce qu'on a eu l'impression, c'est que le gouvernement a été 2 ou 3 coches en retard. Puis ça, ça nuit à notre pouvoir de persuasion.
Ouais, ben je suis assez d'accord avec votre évaluation là, sur les 2-3 coches en retard, 2-3-4. Je lisais encore ce matin là, qu'il y avait en Russie les scientifiques, des chercheurs, dès le mois de janvier, se mettaient à chercher des vaccins. Je veux dire, BioNTech, là, c'était l'automne dernier. C'est pas pour rien là, qu'ils sont associés avec Pfizer. Depuis l'automne dernier, ouais. que les chercheurs ont allumé sur le fait qu'il y avait ce virus-là qui circulait en Chine. Même si on dit que la première mortalité est arrivée au début janvier, ça faisait plusieurs semaines, une couple de mois d'ailleurs, qu'en Chine, ils savaient qu'il y avait ce problème-là. Donc, nous, au mois de mars, le docteur Arruda était en vacances, puis il ne comprenait pas que le port du masque... Pendant longtemps, on a dit que le port du masque n'était pas important. La CNSST vient tout juste de considérer que les N95 et d'autres masques aussi, le N99, pardon, et peut être utilisé. Là. Jusqu'à maintenant, c'était N95. Là, il y en avait un autre, le N99, là, docteur Kadir. Oui, bon, oui. Là, il disait non, pas celui-là. Fait que c'est vrai qu'il y en a des fois des décisions. On se dit, ben voyons, est-ce que tout le monde travaille en silo ou ils se parlent?
Faudra probablement, après ça, faire le
bilan.
Le bilan, le post-mortem de tout ça, parce que bon, on l'a assez souvent dit, la santé publique a été mal financée pendant plusieurs années, déstabilisée par les décisions du gouvernement Couillard-Barrette, beaucoup, mais le sous-financement public, le fait qu'on est tombé dans un modèle gestionnaire top-down incroyable qui enlève beaucoup d'agilité au réseau. Rappelez-vous les médecins qui ont signé une lettre pour demander qu'on décentralise les décisions, de respecter l'intelligence et les compétences locales pour que les gens adaptent et faire confiance à la raison des gens. Et donc, c'est ça qui fait qu'on se bute à de plus en plus de résistance, voilà. Ce qui élève encore plus un peu la responsabilité collective.
Merci beaucoup, Dr. Amir Kadir, infectiologue. Merci, on s'arrête ici. Très courte pause, on revient. On va conclure avec Benoît Barbeau et quelques-uns de vos commentaires. À tout de suite, tout le monde. On a Sylvain au bout du fil. Bonjour. Je pense que vous doutez, vous aussi, de l'efficacité de ce genre de protocole, surtout si on commence à jouer. Là, ce que je lis beaucoup de mes auditeurs là, qui m'écrivent nombreux là, ce matin, là, j'essaie de vous lire le plus possible. Puis, en gros, si je résume, Sylvain, l'avis d'un peu ceux qui m'écrivent, là, c'est de dire on n'aime pas trop l'idée là, qu'on aille jouer dans les protocoles des compagnies pharmaceutiques. Vous voyez ça comment?
C'est ça, moi, je suis retraité du milieu de la santé. Là. Ouais. On n'a même pas stabilisé encore le vaccin contre la grippe. Ça fait au-dessus de 30 ans, 50 milliards, on n'a toujours pas trouvé rien pour le VIH. Puis là, on est rendu à quasiment 5-6 vaccins bientôt. La Moderna, au début, ça se posait juste une dose. J'ai entendu dernièrement, c'était rendu à 2 doses lui aussi. Puis là, il commence à jouer avec les temps. Je ne suis pas un médecin, quand il me prescrit quelque chose, il me dit de prendre 2 médicaments le matin et le soir. Mm-hmm. Il faut que je suive son protocole, ces affaires-là. Là, le gouvernement commence à décider de ne pas écouter Pfizer puis de prolonger le deuxième vaccin, ces affaires-là. Je trouve ça un peu spécial. C'est, moi, les inconnus, les incohérences, ça me faisait peur déjà au début. J'étais un petit peu d'accord avec monsieur le docteur Kadir, il travaille en même temps que moi, en passant. écoutez, moi, je sais pas, il n'y a pas de débat. C'est, ben, je me sens un peu sous pression. Il me semble que si ça serait si bon, il n'y aurait pas besoin d'avoir autant de pression. Il n'y a aucun débat à la radio, aucun débat à TV.
On en débat. On essaie d'en débattre, en tout cas d'en discuter. Merci beaucoup, Sylvain. Marie, rapidement, votre opinion là-dessus?
Oui, M. Barbeau, il y a un scientifique qui a affirmé il y a quelques semaines que si on n'administre pas la deuxième dose dans les délais prévus, le virus va devenir résistant au vaccin. Qu'en pensez-vous?
Oui, mais vous dites que c'est M. Barbeau qui disait ça? Est-ce que j'ai bien compris?
C'est un scientifique. Moi, je pose la question à M. Barbeau.
D'accord, OK. Benoît Barbeau, virologue, oui. Vous en pensez quoi, Benoît?
Ben, vous savez, le virus, peu importe si vous êtes vous y allez avec une deux doses ou une dose, le virus va évoluer et évolue depuis le début de la pandémie. Et comme vous entendez parler des différents variants, il y a toujours la possibilité qu'à un moment donné, il y a un variant qui apparaisse, qui est quand même assez contagieux, qui pourrait avoir une certaine, s'échapper de la protection qui est conférée par les vaccins. La question qui est à poser, c'est est-ce que lorsque vous commencez à jouer avec le protocole et que vous distancez ces deux doses-là, vous allez être plus sujet à ce que ça puisse arriver versus le protocole où qu'on a en ce moment qui est suggéré d'une seule dose avec un délai beaucoup plus élevé. La possibilité est là, en effet. Donc, plus que vous laissez le virus se transmettre, se propager dans la population, plus qu'il va y avoir de nouveaux variants.
C'est ça, plus le virus se transmet, en fait, plus il se modifie.
Exactement. Ouais. Mais d'une certaine façon, ce qu'il faut considérer, c'est que c'est toujours la même question. Il faut en discuter, puis je crois que le docteur Kadir a raison. Il faut vraiment avoir une discussion, rappeler un peu les pour et les contre des différentes stratégies. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez deux doses qui sont très proches l'une de l'autre, qui donnent une protection, et là on parle par rapport à la chance, la possibilité de développer la maladie, qui donne une protection de 95%, versus si votre protection est de 50% ou un peu plus, mais que vous couvrez plus, une plus grande partie de la population, vous allez possiblement avoir des effets similaires. Parce que votre virus, dans le cas où vous avez une dose, une formulation qui est moins efficace en vaccination, vous allez couvrir plus de personnes, les protéger à moins grand niveau, versus protéger à plus haut niveau, mais moins de personnes. Alors, le virus va circuler, mais à différents niveaux, mais probablement que ces deux stratégies-là vont avoir des impacts quand même similaires. Et c'est là vraiment où il faut se poser la question, quelle est la meilleure stratégie? Et je crois que les données, les informations ne sont pas là, mais il ne faut pas pour autant écarter ce protocole-là on a une dose avec un délai plus élevé de la deuxième dose.
Oui, ça peut se tenir. C'est ça que vous nous dites. Vous dites tout à l'heure, quelle stratégie est la meilleure? On va le voir, on le teste. C'est sûr que les compagnies pharmaceutiques doivent elles-mêmes en ce moment le tester. À savoir, puis c'est pas le premier vaccin qui a été d'abord donné en double dose pour ensuite être donné en une seule dose. Je veux dire, les gens disent, il s'est fait beaucoup rapidement, ce vaccin-là. C'est vrai que le fait de dire, on donne deux doses, c'est pour s'assurer d'une plus grande efficacité.
Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est que là, c'est est-ce qu'on favorise le plus grand nombre de personnes
qui ont deux
doses et versus ou plutôt un moins nombre de personnes, mais qui ont deux doses. Et puis l'impact que ça a, à savoir à quel point le virus va se propager à moindre effet, pourrait être équivalent. Et la question des variants demeure aussi important pour une stratégie que pour une autre.
Mais ce que je ressens de mes auditeurs, en tout cas ce matin, Benoît Barbeau, c'est que le gouvernement du Québec peut pas juste faire un point de presse comme il l'a fait hier en nous disant, regardez, on va étendre ça, ce délai-là, entre la première et la deuxième dose, sans l'expliquer plus en profondeur que ça. Je pense qu'il va falloir qu'ils reviennent là-dessus aujourd'hui, au cours des prochains jours. Il n'y a pas grand monde qui est très convaincu de cette stratégie-là. Donc, il va falloir bien l'expliquer si on veut que les gens adhèrent aussi au choix qui est fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'était vraiment très intéressant de vous entendre. Benoît Barbeau, virologue, professeur au département de sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez là, tout le monde. On va poursuivre après les nouvelles. Il y a la question de... On va changer de sujet un peu. Il y a Montréal qui perd du monde. En fait, il y a moins de monde qui vient de s'établir ici. Plus de gens tentés par la banlieue et les régions. Vous allez me dire si c'est votre cas. À tout de suite, tout le monde.